Avec Lizo, on se connaît depuis plus de 5 ans.
Avec Eva, on partage beaucoup de choses, sauf une. Elle croit aux manifestations du paranormal, mais moi, je suis plutôt sceptique.
Moi, il y a un truc qui me fascine, au-delà des dons spécifiques de voyance, c'est les rêves. Et surtout, ceux qui sont prémonitoires.
C'est vrai que même moi, parfois, j'ai une forte sensation de déjà-vu, ou l'impression d'avoir prévu que quelque chose allait se passer.
Alors pour cet épisode, on a décidé de s'intéresser de plus près aux rêves considérés comme de puissants oracles.
Bienvenue dans Para ou Normal.
Cette fois-ci, c'est moi qui emmène Eva rencontrer quelqu'un. Nous nous rendons au cabinet de Johar Siamed, psychanalyste et parapsychologue.
Alors la parapsychologie, c'est un corpus qui étudie les phénomènes paranormaux, évidemment, parmi lesquels il y a deux grandes catégories, une catégorie objective et une catégorie psychique. La catégorie objective, ce sont tous les phénomènes qui donnent lieu à une sorte d'action de la conscience sur la matière, comme par exemple dans les maisons hantées ou dans les poltergeists, c'est-à-dire l'action de la psyché ou d'un esprit sur la matière. Et l'autre aspect, qui est l'aspect peut-être le plus courant, celui qu'on étudie le plus peut-être, qu'on voit le plus en cabinet, ce sont les phénomènes dits psychiques qui concernent la télépathie, la prémonition, la rétrocognition, donc les rêves prémonitoires et tout cet ensemble de choses. Évidemment, il y a beaucoup plus de détails, mais en gros, ça se divise de cette façon.
Vous faites des psychanalyses d'expériences exceptionnelles. Qu'est-ce que vous qualifiez exactement d'expériences exceptionnelles et quelle est votre approche théorique puis pratique de la chose?
Donc c'est une espèce de titre générique qui permet de mettre dedans tous ces phénomènes qui sont à côté d'eux, qui sont un peu bizarres, qui nous secouent, qui nous donnent aussi des informations peut-être sur le futur ou sur le passé. Il y a des personnes qui ont des phénomènes paranormaux, qu'ils gèrent bien. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un rêve prémonitoire, une expérience exceptionnelle de télépathie, ça les remplit en disant « t'es arrivé ça, c'est un peu bizarre, mais quand même ». Puis d'autres, ça ébranle tellement que ça les fait souffrir. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus penser, que le monde entier est en train de s'écrouler, que la réalité... Donc cette expérience est trop forte pour qu'ils puissent l'intégrer. Donc c'est comme ça qu'on a fondé cette partie de la clinique qui s'appelle parapsychologie clinique ou clinique des expériences exceptionnelles, qui permet de recevoir ces personnes, non pas de les psychiatriser, mais de les entendre et d'essayer de les aider à intégrer, comme quand on intègre un événement trop dramatique, et on va les aider à intégrer ça dans leur chemin de vie, dans leur parcours.
Vous, vous animez un enseignement sur ce qu'on appelle les états de conscience non ordinaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire et voilà, nous en parler plus précisément?
J'en suis arrivée à me poser, évidemment, comme toute personne qui s'intéresse à ça, le problème de la conscience. C'est quoi la conscience? La conscience dans l'état vigile, où nous sommes là toutes les trois. La conscience dans le rêve, la conscience dans la maladie, dans le coma, et la conscience pendant ces phénomènes-là, ou la conscience en transe, qui est utilisée depuis la nuit des temps. Et donc, dans ce parcours-là, je me suis intéressée donc à ces phénomènes-là. Et ensuite, je me suis rendu compte que ces phénomènes-là, c'était émergé dans un état de conscience particulier. Même quand c'est à l'état de veille dans la journée, c'est quand même quelque chose qui fait une ouverture un peu particulière du champ de conscience. On dit, c'était pas moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais un peu secouée. Enfin, on sent bien que le mode de fonctionnement de la conscience a bougé à ce moment-là, n'est plus le même. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait, il y avait des gens qui utilisaient quand même de façon moderne ce qui se passe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire l'entrée en transe, l'accompagnement en transe. L'entrance, ça veut dire quoi? Ça veut dire un changement du fonctionnement, des modalités de la conscience. Mais quand on entre dans ces états-là, on ouvre le champ de conscience. C'est-à-dire on ouvre, j'aime bien donner l'idée de baie vitrée, de grande baie vitrée qu'on ouvre, et on est en général dans la vie quotidienne ou la vie habituelle, on est dans des fenêtres comme ça, hein, à peu près, voilà, on peut voir. Et puis, dans la vie, quand on change d'état de conscience, eh bien, c'est comme si on ouvrait des baies vitrées dans toutes les directions, derrière, devant, et qu'on voit... C'est logique, hein. Changer le mode de fonctionnement de la conscience et faire que la conscience puisse s'émanciper des réalités et des contraintes habituelles du corps et de la logique pour pouvoir voyager, pour aller chercher ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Et pour ce faire, la transe, le travail dit de respiration holotropique qu'on a appris chez ce psychiatre, permet d'ouvrir le champ de la conscience. Et donc ce travail renoue avec cette histoire et permet grâce à des musiques, à l'hyperventilation, puisqu'on est dans un pays où on n'utilise pas de drogue, donc l'hyperventilation permet d'ouvrir cette conscience et d'entrer dans cet espace dont je vous parle, un peu comme si on ouvrait toutes ces baies vitrées.
Justement, certaines personnes se tournent vers des substances illicites qui permettent d'atteindre un niveau de conscience supérieur. C'est le cas de l'ayahuasca, un breuvage à base d'écorce de liane qui est couramment consommé en Amazonie. En France, l'ayahuasca est illégal.
Il y a quelques mois, Caroline est partie en Colombie pour suivre une formation de yoga. Et pendant son séjour, elle a participé à une cérémonie d'ayahuasca.
Donc j'y suis plus allée dans une optique de détente personnelle, de relâchement, d'épanouissement, un peu de tri. Et je me suis dit si je peux être une meilleure personne derrière avec moi-même et être dans l'apaisement. Je cherchais surtout peut-être la sérénité, enlever l'anxiété, un peu de... Je ne vais pas dire la dépression parce que je ne suis pas dépressive, mais ces tendances qu'on a à être un peu dans le down, pour rien, dans notre vie, etc. J'ai envie de balayer certains trucs. De toute façon... En fait, il faut avoir une intention derrière l'ayahuasca. Si déjà, tu n'es pas connecté avec toi-même, que tu ne sais pas ce que tu vas rechercher, que tu n'es pas là-dedans, honnêtement, ça ne sert à rien. Pour ça, j'ai des potes qui m'ont dit « Ah, j'aimerais trop tester. » Mais tu ne vas pas tester l'ayahuasca, tu le vis, en fait, le truc. Tu ne vas pas le tester, ce n'est pas un test. Du coup, en fait, avant toute chose, on rencontre la chamane quelques jours avant la cérémonie. Donc, elle est venue là où on avait notre formation de yoga, donc c'était paradisiaque. Donc une petite dame qui arrive, on dirait Pocahontas, elle sort d'un film. Tu te dis, mais il y a vraiment des gens comme ça dans la vraie... Non mais c'est fou quoi, enfin, incroyable, adorable. On a un entretien individuel avec elle, si on en a envie, pour lui parler de ce qu'on veut en fait.
Pendant 3 jours, Caroline suit un régime alimentaire très spécifique. Des produits vegan uniquement et aucun aliment contenant des toxines, même le café.
Le soir de la cérémonie, Caroline se retrouve sur une petite plage de la Sierra Nevada avec 7 autres participants. Avant de boire l'ayahuasca, elle passe par plusieurs étapes. Un peu de méditation, un lavement avec du coton, une inhalation de râpé et d'autres encore. Au bout de 2 heures, ça y est, elle peut enfin boire la tasse d'ayahuasca.
C'est dans un petit shot, entre guillemets, en coco, en noix de coco. Et la chamane nous dit « vous buvez tout d'un coup ». Donc je passe, grosse gorgée, hein, t'en prends quand même pas mal. C'est dégueulasse. Ça a un goût qui est incomparable. C'est vraiment très amer. Et ça te reste en bouche un peu. Je dirais presque que c'est collant. Très collant, c'est noir. Hein, t'as l'impression de boire du pétrole, quoi. Tu vois, ça donne pas envie du tout. Et donc, une fois que t'as bu ça, elle t'indique un hamac qu'il y a sur la plage. Donc, chacun a un hamac désigné. Tu vas te poser. Tu prends ta couverture, ton coussin et ton petit sac à vomi. Et tu vas te coucher. Et en gros, elle te dit tu vas te reposer. Je m'installe sur mon hamac. Je prends mes petites affaires. J'ai plus trop de notion du temps à ce moment-là, mais je pense qu'il y a une bonne demi-heure qui se passe avant que je sente que l'ayahuasca commence à agir dans mon corps. Je commence à saliver, tu vois, avoir un peu l'intestin qui gronde un peu, etc. Donc ce que je fais, c'est que je m'assois sur le côté, prête à rendre, hein, très clairement. Et en fait, d'un coup, tu te vides. Mais vraiment, c'est puissant. Et moi, j'ai pas la phobie de vomir du tout. Ça me posait pas problème parce qu'il faut le sortir, hein, l'ayahuasca. C'est toxique pour l'organisme, hein. C'est pour ça qu'il est rejeté. Ça te purge, en fait, hein. Et là, d'un coup, t'as tous les effets. Là, tu ressens vraiment des effets puissants, quoi. Tu trembles. Moi, je tremblais. Tout mon corps tremblait. Je tremblais pas physiquement, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de voir mes veines, de voir mes muscles, de voir... Et que tout tremblait. Et le sol tremblait. Je me sentais en séisme constant. Et j'avais cette sensation, mais tout de suite après avoir vomi, hein, c'est ça qui est fou, t'as vraiment tous les effets d'un coup. J'avais la sensation que le monde que je voyais de mes yeux, c'était des pixels. Que si je le voulais, ça disparaissait. Que c'était moi qui me créais cette carte. C'était la vraie vie, mais c'était ma vie que je m'imaginais. Et que si je le décidais, tout partait en pixels et que c'est le néon, quoi. Et alors, rien ne m'a fait peur. Moi, qui suis quelqu'un de très anxieux, je n'ai jamais paniqué. J'ai pas vraiment réussi à dormir, parce que de toute façon, c'est pas le but. Mais c'est dur de lutter, de pas t'endormir, parce que t'es KO. Hein. J'ai cru avoir des visions de... En fait, je voyais tout très bien, tout très en détail. Il fait nuit, hein. Il fait nuit, il n'y a plus le feu, tu es dans le noir, tu vois tout très bien. Déjà, tu as une vision extra-lucide. J'ai eu, à un moment donné, l'impression d'être en guerre. J'avais l'impression d'être en guerre, j'entendais des cris. Mais des cris, je savais que c'était la guerre. Pourquoi ? Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Je me sentais comme en guerre. Mais ça ne me faisait pas peur, je n'avais pas cette sensation de peur, de crainte ou de fuite. C'était oh, ok. En fait, tout ce qui vient, tu l'acceptes. Après ça, la chamane, elle vient te réveiller. Enfin, elle vient te voir sur ton hamac. Elle te dit de rester allongée. Et alors moi, à ce moment-là, j'ai vraiment eu quelque chose d'assez particulier. Je ne voyais plus rien sur la plage. Je voyais la plage, mais il n'y avait personne. C'était dans un petit périmètre. On était 8. Et on était tous plus ou moins collés les uns aux autres. C'était vraiment petit. Il faut que tu imagines une plage qui est restreinte. Je ne voyais plus personne. Je voyais juste une plage. Je savais qu'il y avait des gens avec moi. Je ne les voyais pas. J'étais seule. Et quand la chamane et la prof sont venues me voir, je savais que c'était elle, mais je ne les voyais pas. En fait, je voyais très bien, mais je voyais ce que j'avais envie de voir. Je voyais une plage, toute seule. Et c'est là où c'est très particulier, et c'est en leur racontant que j'ai compris, c'est qu'en fait, sur cette plage, je n'ai vu personne et je n'avais pas envie de voir qui que ce soit parce qu'en fait, ça s'est venu travailler sur ma peur de la solitude. Ma peur de la solitude, la peur d'être abandonnée, la peur de l'abandon, tout ça. Mais c'est qu'après que je l'ai compris. Pourquoi j'ai vu personne sur cette plage? C'est pas une vision, ça. Ben, c'est parce que ça vient taper dans un trauma, une peur, une crainte, tu vois, très profond.
Mardi Noir est psychologue et psychanalyste. Elle est la chroniqueuse psy de Slate. On a eu envie qu'elle nous parle de ce besoin chez certains de se tourner vers des substances très fortes pour mieux se connaître.
Mais moi, j'ai souvent entendu les personnes qui ont recours notamment à ça, au LSD de manière plus classique, on va dire, ou à l'ayahuasca dans des stages organisés, etc. Ce que j'ai souvent entendu, moi, c'est des personnes qui, en fait, ont le sentiment d'être coupées complètement de leur inconscient, qui ne rêvent pas, qui ont du mal, justement, à imaginer des choses, où c'est un peu aride, où il y a quelque chose de, ouais, d'une aridité psychique, quelque chose d'un peu... Alors, il y en a qui vont, finalement, être bien organisés du côté de cette aridité, et puis d'autres que ça va frustrer. Et ils vont avoir dans l'idée que prendre cette substance va les ouvrir, comme c'est les forcer à... C'est-à-dire que là, ils n'auront pas le choix. Il y a une substance qui va le faire à leur place. Pour moi, c'est une des raisons, à mon avis, qui pousse certaines personnes à le faire. Ou des personnes qui veulent faire... Il y en a, j'ai déjà entendu aussi, je vais faire une psychanalyse en accéléré, qui ont la flemme de se mettre sur le divan et d'y aller progressivement et qui ont dans l'idée qu'ils vont gagner 10 ans d'analyse alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est pas la même démarche. Mais on va dire que dans l'esprit de certaines personnes, c'est la même chose, mais en accéléré. La prise d'ayahuasca, comme la prise de toute substance hallucinogène, peut, je dis bien peut, créer des troubles à long terme. Je trouve que c'est toujours un peu délicat de dire ça parce qu'on pourrait avoir tendance à dire bah, en fait, la personne a déjà des troubles, mais qui sont, on va dire, très abat-bruit, qui le laissent justement tranquille et la prise d'une substance va réveiller de manière très manifeste ces troubles-là. Je pense que certaines personnes ne supportent pas ce genre de psychotropes. Et, enfin, voilà, je ne suis pas spécialiste complètement dans le domaine, mais j'imagine quand même que ça altère l'état, au bout d'un moment, il faut faire attention avec la drogue. Quoi. C'est... Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre du tout, mais je pense qu'il faut quand même être bien renseigné sur ce qu'on prend et savoir que prendre une drogue hallucinogène, ça fait partie des risques.
Revenons au rêve. Avant d'entendre Johar sur ce qui serait prémonitoire, on a demandé à Mardi Noir de nous éclairer sur l'interprétation des rêves en psychanalyse.
Je pense que ce qui nous intéresse dans les rêves, enfin, si on veut savoir ce que ça raconte, c'est parce qu'on a quand même sans doute une intuition que ça dit une vérité sur nous. Et comme souvent, cette vérité, elle est ultra déguisée, censurée, masquée, déplacée, enfin, qu'il y a plein de choses qui la rendent même parfois absurdes, incohérentes, on se dit qu'il y a quelque chose à décrypter. Et effectivement, on peut décrypter ses rêves. Moi, ma méthode préférée, c'est de les décrypter soi-même. C'est-à-dire, pour moi, ça n'a pas grand sens que d'aller chercher la signification de « j'ai rêvé de ça sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que là, vous allez avoir une réponse générale, ce qui a finalement, je trouve, personnellement, peu d'intérêt, parce que je n'ai pas envie d'être comme tout le monde, j'ai envie de savoir ce que ça signifie pour moi. Donc le mieux, c'est d'essayer de se laisser aller... à une association libre de « qu'est-ce qui fait que j'ai rêvé de ça ?» Et le dire à voix haute et le raconter à quelqu'un, en général, c'est là que peut émerger l'association. Si c'est un psy, c'est encore mieux. Il peut m'arriver, moi, pour faire un parallèle avec l'ayahuasca, de demander à des patients s'ils ont rêvé dans la semaine quand je sens que c'est un peu délicat de parler. Et plutôt que de leur dire « vous parlez pas, il faut parler, dites quelque chose de votre inconscience », qui aurait évidemment l'effet inverse. C'est-à-dire que bah voilà, les gens vont encore moins parler, ça c'est certain. Plutôt de dire « tiens, est-ce que vous avez rêvé cette semaine ? Ou est-ce qu'il y a un rêve qui vous revient ?» Et là, l'idée de raconter son rêve, presque sur le moment, on a l'impression qu'on livre peut-être moins quelque chose de vraiment personnel. Et en fait, c'est là que ça dessine les coordonnées d'un sujet. C'est-à-dire qu'il va... Il va s'en rendre compte d'ailleurs souvent en racontant le rêve, en se disant « mais mince, qu'est-ce que je suis en train de raconter ?» En fait, la personne fait les associations elle-même, donc il n'y a pas besoin d'interpréter le rêve. L'interprétation se fait quand même assez souvent au moment de le raconter et à la limite aidée par le psy qui va dire « et alors, ça vous évoque quoi ?» Et juste cette petite phrase va permettre d'ouvrir quelque chose.
Johar Siamet nous a expliqué la différence qu'elle fait entre un rêve prémonitoire et un rêve normal.
Les rêves prémonitoires, ça peut être une prémonition, une image, un petit scénario. Ça peut être aussi un scénario au milieu de quelque chose, de tout un autre rêve qui n'est pas vraiment prémonitoire. Donc un rêve prémonitoire, c'est-à-dire que par un effet qu'on va essayer de décoder ensuite par rapport à l'histoire du sujet, là où il en était... On va décoder pourquoi il a eu ça. Pour savoir que c'est prémonitoire, il faut que d'abord que la personne ait raconté le rêve ou qu'elle l'ait écrit. Donc une fois qu'elle l'a posé, quand l'événement se passe, on va dire « tiens, j'ai rêvé exactement ça. C'est exactement mon rêve, je l'ai écrit, voilà, j'ai écrit à telle date. » Donc un prémonitoire, c'est quelque chose qui met en scène un événement dont rien dans l'état actuel des choses ne peut me mettre sur la voie. Et pourtant, je rêve de cet événement qui va se produire quelques jours après ou quelques mois après ou quelques années après.
Mais est-ce que, par exemple, si c'est quelque chose dont on rêve, par exemple, si on rêve qu'on va réussir un examen, un truc comme ça, par exemple, et que dans les faits, ça arrive deux jours plus tard, est-ce que là, on peut parler de prémonition ou est-ce qu'on peut se dire « ok, on est arrivé de ça » et donc on s'est donné les moyens d'y arriver?
Oui, voilà. Oui. Ça peut être les deux interprétations. Probablement celle où on s'est donné les moyens, on s'est donné une confiance. C'est un rêve de répétition. Donc je répète en me mettant dans la peau de quelqu'un qui réussit, donc je réussis. Donc c'est pas forcément prémonitoire là, c'est quelque chose qui est... J'ai répété un peu comme un acteur répète son rôle pour pouvoir être au point au moment où il sera sur scène. Donc, c'est aussi une partie des rêves de répétition, de préparation qu'on retrouve souvent.
Et comment ça se fait que des personnes puissent faire le même rêve vraiment similaire de A à Z à de multiples reprises?
C'est comme les messages de notre inconscient, parfois on ne les entend pas. Donc parfois, ils vont revenir à plusieurs reprises, taper de plus en plus fort. C'est le cas de certains symptômes. Et peut-être que ses rêves veulent lui dire quelque chose, ou son inconscient veut lui enseigner quelque chose qu'elle n'entend pas, ou qu'il ou elle n'a pas entendu, et qui se répète jusqu'à ce qu'elle l'entende, et qu'elle prenne en compte, et qu'elle le regarde, et qu'elle l'observe, et qu'elle analyse, hein, si c'est la même personne. Voilà.
Nombreux sont les témoignages de personnes qui disent avoir rêvé de proches disparus qui sont justement revenus leur transmettre un message, souvent le même message répété à plusieurs reprises, donc on était un peu dedans. Est-ce qu'il peut s'agir de véritables entités qui viennent qui
Croyez-vous que je vais vous répondre à une telle question? Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce sur quoi j'ai vraiment une possibilité de réponse et d'aide, c'est de dire qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que c'est arrivé là? Quel sens ça a dans votre vie? Et qu'est-ce que ça vous apporte? Mais dire c'est vraiment une entité, ça ne l'est pas, ça veut dire que j'aurai un pouvoir et une connaissance que je n'ai pas. Aucun être humain. Hein. Il faudrait mourir vraiment pendant longtemps et revenir pour pouvoir peut-être dire les choses. Donc, par contre, c'est un matériel entendable, ce n'est pas quelque chose qu'on va jeter en disant non, non, pas du tout, ça n'existe pas, non. Hein, vous l'avez vécu, savoir avec qui, avec quelle personne de votre entourage, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez connu, qu'est-ce que ça vous a fait en vivant cette expérience. Et toujours pareil, d'amener la personne à élaborer ce qui se passe autour de cet événement et d'en faire quelque chose, et pas simplement, il m'est arrivé un truc un peu bizarre.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est porteur de messages, en fait,
voilà.
Dans tous les cas.
Dans tous les cas, c'est porteur de messages. C'est porteur peut-être aussi, comme les rêves dont on parlait tout à l'heure, certains rêves sont des rêves de messages, des rêves de répétition aussi. On répète un événement qui va venir, qui nous fait peur, et puis on va répéter qu'on va passer l'examen, que on est face à l'examinateur. Donc il y a des rêves de répétition, il y a des rêves messages qu'il faut entendre, qu'est-ce que ça dit à un moment donné de ma vie. C'est très riche, c'est quand même nous-mêmes qui faisons ces rêves. Nous sommes les metteurs en scène de notre rêve.
Mais est-ce que je tombe.
Ouais. Ouais, moi aussi, souvent.
Mais à une vitesse folle.
Voilà.
Sans jamais m'écraser. Mais je tombe, mais je suis prise par la vitesse. Et je peux rien faire. Et je me réveille vraiment en sursaut avec cette sensation de... Je fais toujours des rêves de vitesse. Toujours. Que ce soit dans une voiture que je peux pas arrêter, dans un avion qui va se crasher, mais qui se... Je vis pas le crash, mais je ressens la vitesse. Et c'est terrible parce que je peux rien faire. Je sais qu'il va se passer un truc. Et c'est tout le temps, tu vois, ou moi qui suis propulsée à pleine vitesse, toujours en relation avec la vitesse. Donc il n'y a jamais de finalité, il n'y a jamais d'écrasement contre un mur ou quoi, sans jamais avoir de contrôle là-dessus. Et c'est pour ça que parfois, quand je suis en voiture, côté passager, j'ai toujours le réflexe d'appuyer sur un frein qui n'existe pas. Parce que je revis mon rêve et je me dis, oh, ça va arriver, il faut que je freine alors que je ne peux pas.
Alors quelle est notre première chute dans la vie, la naissance?
Ah oui.
Première descente de la fibre génitale, c'est la naissance.
J'avais le cordon autour du cou, ils ont dû utiliser les forceps.
Ah, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de dur qui s'est passé.
Ah, c'est dingue.
Oui, oui.
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Para ou normal.
Bon, l'ISO, comme à chaque fois, c'est l'heure de l'échelle para ou normale. Donc, comme d'habitude, sur une échelle de 0 à 10, 0 t'y crois pas du tout, 10 t'y crois à fond. Tu te situes où, toi, cette fois-ci?
Eh ben, je me situe à 8.
Oh ! Comment ?
Ouais. Sans parler pour le moment de tout ce qui est rêve prémonitoire, mais pour parler de rêve en général ou de parapsychologie, donc ce que fait Johar. Elle nous a bien expliqué qu'elle a remarqué qu'à chaque fois, tous les témoignages qu'elle a eus ou toutes les analyses qu'elle a faites, c'était dans un état de conscience modifié. Et donc, pour moi, c'est pas forcément paranormal. Donc, je crois à ce qu'elle nous a dit. Et après, pour tout ce qui est rêve prémonitoire, je t'avoue que je reste un peu dans le doute parce que j'ai jamais eu de preuves, j'ai jamais eu d'expérience autour de moi de quelqu'un qui aurait fait un rêve prémonitoire, qui me l'aurait raconté, la chose se serait produite par la suite. Du coup, je suis un peu dans le doute et je trouve pas d'explication par contre rationnelle à ça. Donc, je sais pas.
Mais juste, du coup, ta note de 8, c'est par rapport à tout ce qui touche à la parapsychologie ou tu englobes aussi dedans les rêves prémonitoires? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de noter là? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets dans cet épisode, je trouve, qui touchent de près ou de loin aux rêves prémonitoires. On a parlé de la parapsychologie, on a parlé des rêves prémonitoires, on a parlé de l'ayahuasca. Toi, tu englobes tout ou c'est juste quelque chose de très spécifique pour la note de 8?
Non, j'englobe un peu tout, justement. C'est un peu une moyenne un peu de tout. Alors, l'ayahuasca, je pense qu'on ne peut pas le noter de t'y crois ou t'y crois pas, parce qu'il n'y a pas une question de croyance. Enfin, c'est quelque chose de réel qui existe. Enfin, je vois pas comment on pourrait le noter.
Tant qu'on ne l'aura pas fait.
Ouais. Et moi, je ne le ferai pas, je ne sais pas.
Moi non plus.
Toi, enfin, voilà. C'est hyper intéressant, le témoignage que nous livre Caroline, mais moi, ça me fait plus peur qu'autre chose, je sais pas.
Ouais, moi aussi.
Et après, du coup, oui, c'est une moyenne entre tout témoignage et histoire qui ont été racontées à Johar et comment elle l'interprète via le prisme de la parapsychologie et du coup, les rêves prémonitoires, quoi. C'est plus une moyenne des deux que je fais quand je mets mon 8. Et toi?
Moi, je mets 9.
Ouais, pourquoi?
Je mets 9.
Pourquoi pas 10?
Pourquoi pas 10? Je mets 9 parce que disons que pareil, dans ma note, je vais englober tout ce qui est rêve prémonitoire, mais aussi ce qu'elle nous a dit par rapport à la parapsychologie. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant quand justement elle nous expliquait que quand quelqu'un venait dans son cabinet, par exemple un couple qui dit être victime de phénomènes paranormaux, en tout cas inexpliqués, et qu'elle dit que justement elle essaye déjà, elle, d'étudier la dynamique du couple et de voir ce qui se passe même au sein du couple qui pourrait expliquer ce qui se passe dans leur maison. Enfin, c'est vraiment une approche que j'avais jamais entendue auparavant.
Ah ouais?
Je dis pas que j'y crois à 100% parce que, bon, à mon avis, il n'y a pas que ça qui peut expliquer ce qui se passe dans leur maison. Mais c'est intéressant, en tout cas, de s'y pencher et de voir l'analyse qu'elle elle porte là-dessus. Après, pour les rêves prémonitoires, moi, j'y crois à fond parce qu'il m'est déjà arrivé d'en faire. Des rêves très, très précis qui se sont ensuite réalisés dans les jours ou les semaines qui ont suivi le rêve.
Il me semble que tu m'en as jamais parlé de ça.
Si, je t'en ai parlé.
Tu m'as déjà raconté un rêve
prémonitoire. Je t'ai déjà raconté un rêve prémonitoire, un truc pas très gai en plus. C'était par rapport à une catastrophe naturelle. J'en ai rêvé vraiment la veille. Et c'est arrivé le lendemain et j'ai vu les images en regardant le matin, en scrollant sur mon téléphone. Et en fait, quand j'ai vu les images, j'ai exactement vu ce que j'avais vécu dans mon rêve la veille. Les mêmes personnes qui couraient, les mêmes places, la même disposition. Enfin, c'était assez troublant. Ouais. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. J'en avais jamais
eu avant. C'est arrivé directement le lendemain de ton rêve.
Le lendemain, ouais. J'ai rêvé d'un truc le vendredi, le samedi matin, je regarde mon téléphone.
Et c'était exactement le même lieu ?
Non, c'était pas exactement le même lieu, c'était une région qui était beaucoup plus vaste. Donc du coup, j'y crois parce que pour le coup, ça m'est arrivé.
Ouais.
Et je suis totalement persuadée qu'on peut avoir des messages comme ça sur des choses qui vont arriver, que ce soit au monde ou à sa famille ou à soi peut-être, une sorte de warning en mode « attention, ne prends pas cet avion, attention, ne prends pas la voiture tel jour ». Je pense que ça peut arriver. Je ne sais pas qui te délivre ces messages, des guides peut-être. Mais voilà, donc d'où ma note de 9.
Mais en fait, il y a une question qui me vient maintenant et qu'on n'a pas vraiment abordée. Je ne sais pas du tout si c'est pertinent ou pas, mais en fait, dans tous les cas, quand tu rêves, il y a toujours une part de paranormal. Alors, pas dans le sens où on l'entend en termes général, mais dans le sens qui sort de la normalité. Puisque de toute façon, dans tes rêves, il y a toujours des choses qui sont floues, des déformations, t'arrives pas à courir. Enfin, il y a plein de choses. La réalité n'existe pas. Enfin, elle est complètement désarticulée dans un rêve. Donc, en fait, on est déjà dans quelque chose qui est paranormal et qui sort de la normalité. Et du coup, ouais, je me disais qu'on n'avait pas pris en considération ce truc-là.
Après, tout dépend de ce que tu as comme message et ce que tu vis dans ton rêve. Parce que oui, en effet, le rêve, c'est pas quelque chose de normal comme on l'entend. Mais par exemple, je sais pas si tu vois une personne décédée dans ton rêve et si pour toi c'est réel et si cette personne vient t'apporter un message concret et précis. En fait, on s'en fout que tu sois dans un rêve. Parce que si finalement, toi, le matin, tu te lèves et tu te dis « Bon, bah, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon grand-père, il m'a dit ça, c'était hyper troublant. » Et si c'est un message qui, pour toi, fait sens, même si on est dans un rêve et que, oui, du coup, les dynamiques sont différentes et que ça oublie pas exactement aux mêmes règles que pendant la journée, enfin que le réel, si c'est un message qui a eu du sens pour toi et qui a compté, en fait, on s'en fiche, tu vois.
Oui, mais sans qu'il y ait de toute façon un... Enfin, du coup, ça va à l'encontre de ce que je disais là tout de suite, mais sans forcément qu'il y ait quelque chose de paranormal dedans. Parce que comme le dit Joar, souvent les rêves que tu fais, les personnes qui interviennent dedans, les messages que tu penses avoir à l'intérieur de ces rêves, c'est souvent lié à ce que tu as vécu, des états d'anxiété, des questionnements que tu as. Et c'est pour ça que, comme tu le disais, c'est hyper intéressant toute cette interprétation et cette analyse du contexte dans lequel tu évolues, dans lequel tu es et dans lequel tu te sens pour essayer de comprendre les personnes qui viennent voir Joar et qui disent vivre des phénomènes extraordinaires, que ce soit dans leurs rêves ou dans la réalité, quoi.
Vous venez d'écouter le 7e épisode de Para ou Normal, un podcast d'Eva Lopez-Hero et Liso Campana, produit et réalisé par Slate Podcast, sous la direction de Christophe Caron.
Production éditoriale Nina Pareja, réalisation et montage Aurélie Rodriguez, sound design Johanna Lalonde.
La musique est signée Arnaud Denzler.